France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
C'est le plus grand désert du monde, 25 fois la France. Il y fait des températures qui frisent les moins 50, mais à un moment, au milieu de rien, dans le blanc, on tombe sur la tête de Lénine et ça, c'est un truc de dingue. Vous êtes très nombreux à avoir suivi Heidi Sévestre et Mathieu Tordeur dans leur périple de 4000 km en Antarctique. Ils l'ont parcouru d'est en ouest. Ils vont vous faire partager leur journée de déprime peut-être, 3 heures pour faire un kilomètre. Ça doit quand même sacrément miner le moral, mais aussi les moments fous où les traîneaux filent sur une glace que personne n'a foulée avant. 4000 km en kiteski, ça doit quand même faire les bras et les cuisses. Vous nous le direz, on a eu froid pour vous les amis, on a eu peur aussi pour l'expédition et pour vous quand l'un des traîneaux a montré des signes de faiblesse. Moi j'ai surtout pensé à ce qu'on doit ressentir quand nos sens sont chamboulés, les yeux ne voient que du blanc, il n'y a pas d'odeur. Est-ce qu'il y a du son d'ailleurs sous la glace? Il n'y a pas d'animaux, c'est presque une autre planète. Mais sous vos pieds, il y a des vallées, des montagnes, des volcans et je crois que ça m'aurait donné le vertige. Vous nous direz quelle impression ça vous a fait. Et puis surtout, derrière vous dans cette expédition, il y avait ce que vous avez tracté, des radars à pénétration de sol capables d'analyser ce que vous aviez justement sous vos pieds, capables surtout de remonter le temps. Et ça, c'est fascinant d'analyser une glace si vieille qu'elle a déjà connu des changements climatiques. Et si on sait comment l'Antarctique a réagi, alors on saura comment il réagira encore et nous saurons nous y préparer. Cette expédition ne parle pas de fatalité climatique, elle dit que la science nous enseigne des choses, donc elle parle d'espoir. Et à une époque où les croyances essaient de supplanter la science, où des individus ou des États décident de s'en détourner, vous voir tous les deux emmitouflés dans vos doudounes rend la science désirable et un peu rock'n'roll quand même aussi. On est très heureux de vous avoir avec nous. Je vous salue, Heidi Sévestre et Mathieu Tordeur. Merci beaucoup d'être au téléphone sonne ce soir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et Karine, vous êtes la première, vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Allô?
On vous écoute, Karine.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Heidi, bonsoir Fabienne et bonsoir Mathieu.
Merci, bonsoir à vous.
Je voulais d'abord remercier Heidi pour son livre Sentinelle du climat que j'ai terminé aujourd'hui. Alors, donc on s'est rencontrés à Tours Heidi. J'ai deux questions à vous poser. Première question par rapport à votre expédition. Est-ce que vous avez trouvé dans cette expédition des espoirs pour protéger la biodiversité de notre planète, s'adapter et atténuer les impacts du réchauffement climatique? Et aussi, je voulais vous remercier parce qu'en tant que scientifique, jamais vous perdez espoir et ça nous permet à nous, citoyens, de ne pas perdre cet espoir. Et puis, deuxième chose, donc je suis prof d'histoire géo, on enseigne le réchauffement climatique dans des classes de 5e. Et là, j'ai un gros dilemme. Souvent, je m'auto-censure. Je me demande comment enseigner la réalité du réchauffement climatique sans pour autant affoler nos élèves.
Et vous les avez suivis, j'imagine, pendant le périple, parce que vous les avez suivis avec les élèves, Karine?
Alors, sur le site internet, hein, pas sur les réseaux. Et par contre, j'avais demandé à recevoir les petits fascicules pour ma classe. Et je m'étais inscrite et puis je ne les ai pas reçus.
Mince. Ça commence bien. On vous les enverra. On tâchera d'envoyer les fascicules, Karine. Évidemment. Merci beaucoup. Merci pour cette première question et pour cette entrée en matière. Heidi Sévestre, il y en a plein des questions comme ça. Mais c'est aussi ce que vous êtes. Est-ce que vous revenez quand même optimiste sur le réchauffement climatique?
Oui, c'est très important et merci beaucoup Karine pour ces mots, ça me touche beaucoup. C'est vrai que le changement climatique, c'est très difficile de communiquer dessus, on est toujours un peu sur une ligne de crête. Mmh. On veut dire la vérité, on veut pas non plus plomber l'ambiance parce que c'est pas ça qui va motiver les gens à passer à l'action. Et nous, pendant toute cette expédition, on a tâché d'avancer le mieux possible, de faire la meilleure science qu'on pouvait, mais surtout de partager cette science avec les jeunes générations, comme le font des profs aussi merveilleux que Karine. On a vraiment besoin d'eux. Et en fait, ce programme pédagogique, alors on est vraiment désolé que les fascicules ne soient pas arrivés jusqu'à Karine, mais ils sont arrivés à d'autres, ces cahiers, et il y a 300 000 jeunes en fait, qui ont suivi l'expédition de 41 pays différents, et on leur a parlé à ces jeunes pendant l'expédition. On était très cash sur le changement climatique, et ces jeunes, ils étaient boostés, mais à un niveau qu'on n'aurait pas imaginé. Ils étaient très tournés vers l'action, et en fait, je pense que la clé aujourd'hui, c'est d'essayer d'être limpide sur la science, mais de montrer que partout autour de nous, en fait, il y a des gens qui se bougent et qui lâchent pas le morceau.
Et c'est important pour ça que vous ayez un parcours différent l'un l'autre, en fait, parce que vous, Heidi Sévette, vous êtes glaciologue, donc la scientifique, c'est vous. Vous, Mathieu Tordeur, vous êtes explorateur, vous êtes aventurier, alors certainement pas indifférent, bien sûr, au réchauffement climatique, mais pour ce genre d'expédition, pour qu'elle parle à nous tous, il faut ce mélange-là, en fait.
Mais je crois que notre force avec Heidi, et c'était vraiment le point de départ de cette expédition, c'est qu'on voulait vraiment incarner la science et sensibiliser avec émotion. Et donc l'association de la science et de l'aventure, de l'expédition, de l'exploration, c'était une manière en fait de parler de ce sujet qui est très anxiogène, Heidi l'a très bien dit, et c'était une manière de sensibiliser avec des histoires, avec voilà, cette expédition, avec le quotidien, et de montrer un petit peu les coulisses et la réalité d'une expédition scientifique qui intéresse les jeunes mais qui intéresse aussi les moins jeunes. Et le fait de le faire ensemble, c'était une manière justement de rendre ça visible au plus grand nombre, et c'est ce qu'on s'est attaché à faire tous les jours sur les réseaux, mais aussi auprès des jeunes générations.
C'est une idée qui, d'ailleurs, est-ce que c'est vous qui avez dit je cherche une scientifique? Voilà, il y en est en train de vous dénoncer, Heidi Sévette.
Il n'y avait pas beaucoup.
Est-ce que c'est vous qui avez cherché? Est-ce qu'il y a une scientifique assez dingue pour faire 4000 km en sky ski?
Exactement. Et Heidi a eu la folie de répondre oui, et j'en suis très très heureux. Et Heidi ne savait pas faire de kite ski. Hein, il faut quand même le dire. Il y a quelques années encore, et tu vois, elle a progressé.
Il y a deux
ans,
ouais.
Une vitesse folle, et on a pu faire une expédition vraiment dingue que on n'aurait jamais pu imaginer dans nos rêves les plus fous, hein, et donc c'était génial de pouvoir parcourir ce continent à la force du vent.
Alors on s'arrête un moment sur le kiteski quand même. D'abord, il faut être... Alors j'ai vu des images, vous êtes super bon skieur, vous. Non mais c'est vrai.
Il est très bon skieur. C'est bien de le souligner.
Vous étiez bonne skieuse, vous, Heidi Sévette?
Bah, je suis haute savoyarde, mais pas si bonne skieuse que ça.
Mais et déjà, donc il faut être super skieur pour jouer à ça.
Il faut avoir une bonne base de ski. Et c'est vrai qu'on s'est quand même énormément entraîné pour cette expédition. On n'est pas parti les mains dans les poches. On s'est entraîné en Norvège, on s'est beaucoup entraîné au Groenland, qui est un peu analogue, finalement, c'est l'autre calotte polaire, analogue de l'Antarctique. Et finalement, ça m'a donné suffisamment confiance pour me dire, bah oui, c'est traverser l'Antarctique, on va peut-être pouvoir la faire.
Non mais attendez, parce que quand même, à bout de... Enfin, je sais bien qu'on est harnaché, hein, enfin, vous avez des bras dans quel état? Non mais sérieusement, enfin, à l'issue d'une... Dans les journées folles que je voyais, parce que moi je vous suivais sur Instagram, où ça avançait pas, où vous aviez le vent de face, à la fin, sérieusement, on a les bras dans quel état?
Oui, le kite ski, peut-être que je vais le décrire aussi, parce que ça doit être assez obscur pour pas mal de gens, c'est qu'en fait, donc on a des skis aux pieds, on est tiré par des voiles de différentes tailles, suivant la force du vent. Mais derrière nous, on tire des traîneaux.
Bah oui,
on avait 200 kilos d'équipement chacun, donc c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que, oui, les premiers jours, on a quand même quelques petites courbatures aux jambes et aux bras. Et là, j'ai l'impression qu'on a quand même un petit peu gagné du muscle. On a tous les deux perdu pas mal de poids, mais alors les bras et les épaules et quelques petites tendinites plus tard, on y est arrivé. Ouais.
Quand il n'y a pas de vent, par exemple, parce qu'il y a eu des moments de calme plat, Mathieu Tordeur, mais vraiment plat, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Parce que je voyais bien, vous faisiez des mots croisés, limite.
Ouais, en fait, c'est à la fois une bénédiction et une torture. Bénédiction parce que ça nous permet, nous, de nous reposer. Et mine de rien, sur une expédition qui dure quand même 80 jours, c'est bien d'avoir des moments où on prend un peu de temps pour soi, où on prend le temps aussi de faire les sauvegardes de la recherche scientifique menée par Heidi, prendre le temps aussi de faire des réparations, parce qu'il y en a eu beaucoup, et Heidi était très très affairée justement sur ces sujets-là. Et mine de rien, c'est bien aussi en fait d'avoir des moments où on se repose, parce que sinon, si c'est de A à Z sans un seul jour de repos, on finit par exploser. Après, c'est sûr que pour le moral, c'est difficile de voir que le petit point, il bouge pas. Et ça, j'avoue, moi, j'avais parfois du mal à accepter qu'on ne bouge pas, mais ça ne vaut pas le coup de tirer le traîneau à sa propre force. Pourquoi? Parce que quand on tire les 200 kilos, eh bien, on aura beau tout donner, on fera une dizaine de kilomètres, une vingtaine de kilomètres.
Ça sert à rien, en fait, sur l'énormité du parcours.
Et que c'est une distance qu'on peut parcourir en une heure, si les conditions sont bonnes le lendemain, en fait.
Y a beaucoup de voileux qui nous appellent, et ça m'étonne pas, en fait, parce qu'il y a...
Beaucoup de similitudes.
Il y a beaucoup de similitudes. Ouais, voici Sylvain. Bonsoir, Sylvain.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Sylvain.
Oui, mais je suis très surpris parce que moi, j'avais pas du tout connaissance de cette aventure. Et j'ai appris ça tout à l'heure, là, au journal de 18h, à votre annonce.
Il est jamais trop tard.
Et donc, félicitations à vous deux parce que vous vous inscrivez quelque part dans la ligne d'Amundsen, Scott, Shackleton, tout cela. Et moi, j'avais une question parce que je suis au Finistère et je suis fan de voile et sur les courses transocéaniques, sur les courses autour du monde, les voileux qui partent, ils ont toujours du spare avec eux. Ils ont des matériels de rechange. Mais eux, ils ont un bateau et ils ont un joli compartiment pour amener ce spare. Comment est-ce que vous avez fait parce que j'imagine que vous avez vos vivres, vous avez votre matériel de survie pour vous chauffer. Et en plus de ça, il faut rajouter du sperre si vous avez des avaries. Comment vous êtes organisé? Parce que c'est votre exploit est incroyable.
C'est pour vous ça, Mathieu Tanger.
Ouais, mais merci. Effectivement, il y a beaucoup de liens avec la voile. Alors, dans notre traîneau, vous l'avez bien identifié, on avait de la nourriture, on avait notre équipement scientifique et on avait notre équipement pour camper, donc la tente, le sac de couchage, le tapis de sol, le réchaud, fuel aussi pour faire fondre la glace et la neige, parce qu'on rappelle que là-bas, il n'y a pas d'eau sous son état liquide, hein, il faut qu'on la fabrique. Et puis, on avait tout cet équipement scientifique et c'est vrai que nous, on partait dans quelque chose un peu d'exploratoire. Hein. On s'était entraîné au Groenland, mais il fallait quand même s'assurer qu'on puisse arriver de l'autre côté en faisant la science qu'on souhaitait faire, et donc ça voulait dire avoir beaucoup de matériel de réparation. Donc on avait beaucoup d'outils, hein. Heidi avait fait une liste de matériel qui s'est avérée super utile, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de surfaces chaotiques et on a beaucoup cassé d'équipement, mais on a réussi à réparer la majeure partie. Et c'est vrai que le froid a beaucoup abîmé aussi le matériel, et puis au niveau du matériel de rechange, on avait, nous, envoyé par précaution du matériel au pôle sud géographique où il y a une base scientifique américaine. Et là-bas, on avait des kites de spare, des kites de rechange, et on avait aussi des pulkas, des traîneaux de rechange.
Parce que vous avez cassé, à un moment, par exemple, le pulka, que vous avez cassé le traîneau.
J'en ai explosé une.
Et du coup, vous avez fait comment? Est-ce que vous l'avez changé
au pôle sud, mais il y avait quand même bien 600 km entre le moment où j'ai explosé la pulka et le pôle sud. Et là, par chance, on a emprunté des pulkas qu'on avait pour le radar à pénétration de sol, dont vous avez parlé.
Il y a une question dessus, bien sûr.
Qui avait lui-même ses propres pulkas. On voulait les garder un petit peu de côté, on voulait pas embêter ses pulkas, mais j'ai mis toutes mes affaires dedans et j'ai pu faire les 600 derniers kilomètres jusqu'au pôle sud.
Parce que ce qu'il faut expliquer aux gens avant de retourner au standard, c'est que on a l'impression que c'est lisse, l'Antarctique, c'est tout sauf lisse.
Mon Dieu.
Et c'est ça qui doit être extrêmement fatigant, qui demande une concentration extrême. Ça ressemble à quoi? On a l'impression que c'est une couche, mais en fait elle est mal pliée, la couche, si je puis dire, au-dessus de l'Antarctique.
C'est une façon de le décrire. En fait, l'Antarctique est vraiment dompté par les vents. C'est les vents qui décident de tout. Et ces vents peuvent être tellement violents qu'ils arrivent à sculpter en fait ce manteau neigeux. Ce n'est pas de la poudreuse en Antarctique. Ouais. Hein. C'est vraiment de la neige dure comme du béton. Et elle est vraiment sculptée et ça forme comme des vagues de glace, comme des dunes de glace, parfois qui faisaient un mètre de haut. Et nous, il faut savoir qu'on se déplace là-dessus, que nos traîneaux sont sur ces lignes de crête pendant des milliers de kilomètres. Et donc, ça secoue dans tous les sens. Nos traîneaux, ils subissent autant qu'une machine à laver presque.
Non,
ça vibre.
Il paraît aussi que vous avez fait, j'ai vu ça sur vos comptes rendus, vous avez fait des vols planés parfois, parce que quand ça vole.
Il y a quelque chose qui est assez effrayant, c'est qu'on tracte derrière nous des traîneaux et puis on tracte le radar profond, on va en parler, mais c'est un matériel qui a une longueur qui peut atteindre 100 mètres pour le radar profond. Et les pulkas, les traîneaux qu'on tractait derrière nous, elles étaient à une bonne dizaine de mètres de nous. Et ça, le problème, c'est que parfois ces pulkas se bloquaient dans ces bosses de neige. Et donc ça tendait en fait kite et ça nous parfois projetait en l'air. Et c'est vrai qu'on a fait des bonds de kangourou et ça nous a fait battre le cœur quand même assez fort. Heureusement, c'est jamais mal réceptionné.
Parce que la frayeur, c'est ça en fait, j'imagine. Ouais. C'est péter quelque chose qui est irréparable et puis c'est vous faire mal à vous. Quoi.
Oui, et surtout de se dire que si on se pète une jambe, il y a des endroits où on avait eu des centaines de kilomètres de sastrugis, de dunes de neige et de glace. Et on se dit, en fait, aucun avion ne pourrait se poser à côté de nous pour nous sauver si on a un vrai gros problème.
Vous voyez, ça vous rapproche aussi des voleux, parce qu'avant de partir pour le Vendée Globe, ils savent faire des choses, ils savent se réparer eux-mêmes, ils savent se recoudre. Oui. J'imagine que vous avez appris pour faire l'un sur l'autre, non?
Oui, tout à fait. Alors, on est allé dans un institut qui s'appelle l'Institut Ifremont, à côté de Chamonix, et on a fait une formation médicale. Et c'était intéressant de voir qu'on avait pas mal de choses à apprendre, mais on a progressé. Mais oui, on avait plein de techniques justement pour se recoudre l'un l'autre. On avait une trousse à pharmacie qui était importante, mais c'est important quand on part dans des terrains aussi reculés.
Allez, la question d'Emmanuel, je suis sûre que tout le monde là, c'est elle qui s'y colle. Ouais. Bonsoir Emmanuel.
Je sais ce que c'est.
Oui, bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier parce qu'on a suivi avec les enfants votre épopée tous les soirs. Et du coup, ça nous a tenu pendant plusieurs semaines et c'était assez incroyable. Donc déjà, merci pour ça.
C'est eux que j'entends là, les enfants derrière.
Oui, c'est ça, c'est les enfants que vous entendez derrière. Et nous, on a une question. Dans une des vidéos, on a entendu que il fallait pas polluer l'Antarctique, ce qui est plutôt normal. Et on se demandait comment vous avez fait vos besoins, parce qu'on imagine que vous n'avez pas pu faire ça dans la glace.
qui veut répondre? C'est Heidi qui s'y colle.
Et en tout cas, on passe bien le bonjour à vos enfants. Ça fait trop plaisir de savoir qu'on était suivis par votre famille. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement strict en Antarctique, hein, tout ce qui est la gestion des déchets. Et justement, on doit obtenir un permis avant de partir en Antarctique qui nous indique justement toutes les réglementations qu'on doit suivre. Et à part les déchets organiques, on ne peut rien laisser en Antarctique. Donc, voilà, pour le pipi et pour l'autre, eh ben, on fait un petit trou dans la neige. C'est le passage aux toilettes, entre guillemets, le plus rapide de l'univers.
Non, mais j'allais dire, parce attendez, non, mais pardon, parce que moi aussi, je vais poursuivre la question d'Emmanuel. Non, mais c'est pas le tout de faire un petit trou, mais enfin, par moins 30, excusez-moi, moi, j'enlève pas la doudoune, quoi, je veux dire.
Des fois, on n'a pas du tout envie. Hein. Des fois, on rêverait d'utiliser la tente pour pouvoir faire nos besoins. C'est vrai que pour les filles, c'est un peu plus compliqué que pour les garçons. Hein, et quand on a un harnais de kite par-dessus tout, on n'a pas envie de l'enlever. Mais voilà, alors on est devenu expert, en tout cas, quelles que soient les conditions, quelles que soient les températures, d'être particulièrement efficace à ce niveau-là.
On a développé des petites techniques. Parfois, on se protège du vent en se mettant proche de la tente, proche du traîneau.
Parce que le vent peut être traître dans ces cas-là. On le regrette. Je disais tout à l'heure en introduction, moi, ce qui me fascine, c'est pas d'odeur. Zéro odeur. Est-ce qu'il y a quelque chose quand on rentre, en fait, subitement, le nez se remet en marche, en fait?
Mais c'est dingue. Alors, tant mieux qu'on n'ait pas d'odeur en Antarctique, que le nez soit un petit peu anesthésié, parce qu'on ne sent pas la rose non plus. Hein. On se fait des petites toilettes de chat avec des lingettes, mais ça ne va pas plus loin que ça. Je pense que Mathieu, tu étais peut-être content de ne pas trop sentir mes pieds après une journée de kite. Parce que
on veut pas ces infos.
Compliqué. Mais c'est vrai que quand on est rentré, en fait, en Amérique du Sud. Et la première respiration qu'on a, mais on avait l'impression que l'air était vitaminé. Si on pouvait mettre des couleurs sur les odeurs qu'on sentait, c'était vraiment multicolore, c'était extraordinaire.
Et est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que ça craque la glace? Moi, la seule expérience que j'ai eu la chance de voir le Perito Moreno, et ça faisait un bruit de dingue, c'était génial.
Le glacier du monde.
Exactement, mais est-ce que ça fait du bruit comme ça? Est-ce que ça pète la glace,
Alors, la glace, oui, ça casse. Le Perito Moreno, c'est un glacier qui vèle des icebergs, donc ça fait un fracas monumental. En Antarctique, on est vraiment sur une calotte polaire, et nous, on a fait que s'éloigner de la côte. Je vous entendais dire en introduction qu'il n'y avait pas d'animaux, alors il n'y en avait pas sur notre parcours. En revanche, il y a beaucoup d'animaux sur la côte du continent, des manchots, des baleines, des phoques, des oiseaux. Nous, on était au milieu de la calotte polaire, en tout cas, on ne faisait que s'éloigner de la côte. Et le vent, en fait, fait beaucoup de bruit. Le vent fait du bruit sur les vêtements, sur la tente, les skis sur la glace font du bruit, nos vêtements quand ils se frottent, ça fait du bruit. Donc c'est un univers qui est très sonore, c'est pas tellement silencieux finalement, mais il y a quand même des jours où il n'y a pas de vent du tout. Et là, c'est le silence le plus incroyable qu'on ait jamais eu l'occasion d'entendre.
Est-ce qu'il peut y avoir un stress, une espèce de déprime blanche? Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous l'avez fait déjà, Mathieu Tordeur, et vous l'avez déjà fait tout seul, ce genre d'expédition. Vous, Heidi, moins, mais est-ce qu'il y a une espèce de dépression blanche, en fait? Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais un moment où on se dit, donnez-moi de l'horizon, donnez-moi quelque chose.
Par manque de stimulation, en fait. Je pense qu'on a vraiment eu une expédition où, oui, le paysage était assez monotone. Surtout pendant les deux premiers mois. On n'a pratiquement pas eu un nuage dans le ciel, c'était miraculeux. Alors on avait du blanc, on avait du bleu et quelques bosses de neige et pas plus que ça. Mais c'est vrai que très rapidement, le cerveau commence à s'adapter à ce qu'on voit et on remarque en fait les micro-détails. On arrive à s'émerveiller d'un coup quand on arrive à apercevoir la Lune. En fait, nous, on a du soleil de minuit en Antarctique pendant l'expédition. Il fait jour 24 heures sur 24 et par moment, on arrivait à voir la Lune et c'était complètement magique. Mais cette expédition, en fait, on savait qu'on ne la faisait pas juste pour nous deux. On savait qu'on avait tous ces jeunes qui nous écoutaient, qui nous suivaient et qu'on la faisait pour la science. Et je pense que ça nous a permis de rester bien déterminés.
Et le fait de partager, effectivement, j'imagine que c'est vraiment important et ça change des explorateurs et explorations des années précédentes où la technologie, évidemment, n'est pas les mêmes. On est en train de refaire 4000 km sur la glace de l'Antarctique avec Heidi Sévestre et avec Mathieu Tordeur.
France Inter. Le téléphone sonne.
Et avec vous, Adrien, vous êtes en Dordogne. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Adrien.
Oui, alors une question un peu plus technique. Lors de votre expédition, vous avez utilisé un radar pénétrateur de sol qui nécessite normalement pour l'interprétation fine des données une connaissance très précise des coordonnées géographiques pour chaque sondage radar. Alors, comment vous avez résolu ce problème lors de vos traversées en Skyski afin d'assurer une analyse des données qui serait optimale?
Merci beaucoup, voilà. Adrien. C'est pour vous ça, Edith.
C'est une question de pro, Adrien.
Ouais, absolument.
Merci beaucoup de l'avoir posé. Alors, on a eu la chance d'être super bien accompagné. Alors, c'est une de mes spécialités de faire du radar à pénétration de sol sur les glaciers. Mais en Antarctique, c'est clair qu'on avait besoin de très bons GPS. Et pour ça, on s'est fait accompagner d'une des marques qui fait les meilleurs GPS au monde. C'était un de nos instruments les plus chers qu'on a emmené en Antarctique, qui commence par un L. Donc, je suis sûre que vous connaissez exactement cette marque, qui nous a vraiment permis de positionner les données radar au centimètre près sur des centaines de kilomètres. En fait, les données, il faut savoir où on les récolte.
Exactement.
Et donc, c'est très important d'avoir des GPS de haute précision.
Mais alors, justement, comment ça se passe? Donc, vous avez ces radars à pénétration de sol. Donc, l'endroit idéal, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous allez chercher quand vous dites l'endroit GPS, c'est celui-là? Comment ça marche?
En fait, on a divisé l'expédition en deux morceaux. Okay. La première partie, du point de départ jusqu'au pôle sud, on a utilisé un radar qu'on appelle de surface. En fait, c'est un radar qui était assez compact. Je l'avais carrément niché dans une de mes poulkas, il rentrait bien. Et ce radar-là, lui, il regardait les 40 premiers mètres de la surface en profondeur.
Okay.
Ce qui l'intéressait particulièrement, c'était de savoir est-ce que l'Antarctique gagne du poids ou non sur notre trajet. En gros, ce qu'on détecte aujourd'hui, c'est que l'Antarctique se réchauffe et qu'avec ce réchauffement, par endroit, il peut y avoir plus de chutes de neige, qui s'accumulent, qui forment un peu plus de glace. Donc ce radar-là, il était particulièrement important pour des scientifiques qui sont en Allemagne, l'université de Tübingen et le Alfred Wegener Institute, à qui on va bientôt envoyer les données. Là, on vient tout juste de rentrer, donc on a hâte. Et ensuite, pour l'autre partie de l'Antarctique, c'était pas le même schmilblick. Et là, je vois Mathieu qui me regarde, parce qu'il sait à quel point ça a été de la douleur. Là, on a tiré un radar beaucoup plus profond. Mm-hmm. Qui dit beaucoup plus profond, dit un radar qui est beaucoup plus long à tirer. Il faisait 100 mètres de long, donc à tirer derrière nos traîneaux, derrière nos poulkas.
Le radar en lui-même fait 100 mètres de long.
Parce qu'il a des longues antennes, voilà. Il va scanner de la glace qui est vraiment en profondeur. Et ce radar-là, ce qui l'intéressait, c'était de la glace beaucoup plus profonde et aussi de nous permettre de cartographier le lit rocheux, donc l'interface entre la glace et le continent antarctique. Et là, c'est des scientifiques britanniques et écossais qui sont particulièrement intéressés par ces données.
Mais alors, du coup, quand vous dites que vous avez presque remonté le temps, en fait, grâce à ce radar à pénétration de sol, ça veut dire que vous avez remonté le temps, si je puis dire, été cherché profondément dans la glace, jusqu'à quand?
Ouais, alors ce radar, c'est Mathieu qui l'a tiré et notre objectif c'était de trouver de la glace qui a plus de 2 km de profondeur.
C'est ça.
Et on estime que c'est une glace qui peut avoir à peu près 130 000 ans, qui est une période qui est vraiment très très importante pour nous parce que l'Antarctique est une des meilleures archives du climat. On sait que cette glace, elle a enregistré tout un tas d'épisodes chauds notamment. Et à 130 000 ans sur Terre, il faisait pratiquement les températures qu'on risque d'avoir d'ici la fin du siècle. Donc pour nous, c'était important d'essayer de choper cette glace. Et alors l'avenir nous le dira, on va envoyer ces données scientifiques aux scientifiques britanniques et écossais qui vont pouvoir analyser tout ça et nous dire jusqu'où on est remonté et on espère qu'on a pu toucher ces glaces-là.
Ça veut dire que vous avez appris beaucoup de choses, vous, Mathieu Tordeur, en fait, dans cette équipe.
J'étais à l'école. Parce qu'évidemment,
vous avez beaucoup tiré de poids.
Mis à contribution, mais effectivement, et c'est ça qui était passionnant. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'aventure pour l'aventure, c'est bien. Mais si on est capable justement de ramener quelque chose du terrain, si on est capable d'embarquer justement tout un public, toute une génération, et en plus de faire de la science, de ramener des données scientifiques, c'est très intéressant. En fait, il faut savoir, Heidi m'expliquait qu'aujourd'hui, les expéditions scientifiques, et heureusement qu'elles existent en Antarctique, elles sont effectuées souvent avec des tracteurs, avec des dameuses, avec des scooters des neiges, et c'est génial parce que ça permet de faire des expéditions lourdes, et il faut saluer le travail des scientifiques qui est effectué tous les ans, et nous on l'a vu de très près, et c'est formidable le travail qu'ils font. Nous, ce qu'on proposait, c'était quelque chose d'un peu différent. On proposait de faire un long transect, une longue traversée portée par les vents. Et donc, c'était quelque chose d'un petit peu différent. Et c'était un moyen, justement, de décarboner la science, d'envoyer aussi un signal, un message, montrer qu'on peut faire différemment à notre échelle, en restant évidemment très humble. On n'est qu'une équipe de deux sur le terrain.
Oui, mais c'est important que même les explorateurs, les aventuriers, bien sûr, les scientifiques, fassent aussi des expéditions décarbonées. Parce que l'entend beaucoup ici, y compris, vous voyez, on avait un voileux tout à l'heure. Quand on parle de Vendée Globe, il y a toujours une question qui vient à un moment sur ouais, mais vous êtes gentil, c'est magnifique votre truc, mais votre bateau, pour le construire, etc. Donc il faut aussi être capable de prouver ça, en fait. On peut faire de la science décarbonée.
Ben on, c'est la proposition qu'on avait et qu'on a essayé de faire. En tout cas, on a réussi à faire ces 4000 km dans le peu de temps que dure l'été austral. Hein. Il faut le rappeler, l'été austral, seulement 3 mois, c'est notre hiver à nous. Et donc, on avait quand même aussi cette fenêtre qu'il fallait respecter et on est parvenu à tirer ces radars sur une traversée de l'Antarctique.
Les données, Eddy Sévestre, maintenant vous les avez confiées, en combien de temps elles parlent, ces données, en fait?
Alors, la science est toujours assez longue.
Pour l'instant, elles n'ont rien dit, en fait.
Non, alors pour l'instant, pas encore, mais pour pouvoir publier des articles scientifiques vérifiés par les pairs, ça met toujours quelques années.
Okay.
Donc on espère que d'ici 2-3 ans, peut-être qu'on se retrouvera
J'espère qu'on se parlera avant, mais ce sera avec grand plaisir. Évidemment, est-ce qu'on peut avoir une surprise? Bonne surprise. Finalement, ça n'a pas été si pire que ça il y a 130 000 ans. Donc ça veut dire qu'il nous reste du temps.
J'espère, évidemment. Malheureusement, en glaciologie, donc la science de la glace et de la neige, on a assez rarement des bonnes nouvelles. Donc on croise les doigts, je touche du bois, mais on verra ce que les données nous disent.
Le plateau est en bois, allons-y. Voici Noël qui est avec nous. Bonsoir Noël.
Bonsoir à toute l'équipe et bravo à France Inter, j'écoute depuis 1969.
Bravo.
Alors ma question, elle sera courte. J'écoute passionnément le témoignage de l'exploratrice, excusez-moi, je n'ai pas noté son nom.
C'est pas grave, elle s'appelle Heidi et en face il y a Mathieu, mais je vous en prie, allez-y Noël.
Voilà, donc Fabien, c'est bien Fabien de Synthèse.
Moi, enchanté.
Voilà, très bien, enchanté. Oui, donc j'écoute passionnément et surtout comme je suis voileux, j'écoute aussi cet exploit. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est qu'à aucun moment vous ne dites s'il y a de la vie, est-ce qu'il y a des animaux, est-ce qu'il y a des ours polaires, est-ce qu'il y a des pingouins, est-ce qu'il y a d'autres sortes d'espèces vivantes. On dirait qu'il n'y a pas de vie sur l'Antarctique tel que vous l'avez visité ou exploré.
Merci.
Voilà, c'est ma question.
Merci Noël, Mathieu Tordeur.
Oui,
où sont les animaux?
Merci Noël pour la question, c'est vrai que vous n'êtes pas le seul à vous la poser, je pense, cette question. En fait, la vie en Antarctique, elle est foisonnante, mais elle se cantonne à la périphérie de l'Antarctique. Pourquoi? Parce que c'est là, en fait, qu'il y a accès à l'eau libre, et donc c'est là qu'il y a de la nourriture. Donc on va trouver des manchots, des baleines, des phoques, un grand nombre d'oiseaux, et ils sont surtout très présents pendant l'été, et donc c'était le moment où nous, on y était. Mais nous, notre projet, notre expédition avec Heidi, elle n'a consisté qu'à s'éloigner de la côte pour la rejoindre. Et même quand on était à la côte, il restait encore ce qu'on appelle des plateformes de glace. Et donc, on était encore loin de l'eau libre. Et donc, malheureusement, on a vu pendant notre expédition seulement 3 petits manchots au départ. Un lab, qui est un oiseau emblématique de l'Antarctique. Et sinon, la seule vie qu'on ait croisée, c'est au pôle sud. Puisqu'au pôle sud, géographique, il y a une base scientifique américaine où il y a 170 personnes qui travaillent l'été. On a eu la joie d'en rencontrer une partie. Et donc, autre la vie humaine qu'on partageait avec Heidi, on n'a pas croisé beaucoup de vie sur ce continent, mais elle existe surtout sur la côte et dans les bases scientifiques.
Alors, vous avez parlé du pôle sud géographique. Moi, je voudrais que vous nous parliez du pôle sud d'inaccessibilité parce que moi, en vous suivant sur Insta et subitement, je vois un buste de Lénine.
C'est
tellement dingue. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce... Enfin, vous l'avez raconté, mais racontez-nous, c'est quoi ce buste de Lénine? On voit que lui, en plus, dans la neige. C'est tellement génial. C'est possible?
C'est fou et en fait, on le visait, évidemment. Ouais. Ce buste de Lénine, et on l'a aperçu à 3 km. Après avoir vu ce paysage de neige et de glace pendant des semaines, on aperçoit une sorte de petit champignon jaune à l'horizon et on se dit « ça y est, on va l'attraper ». Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 1958, des soviétiques sont allés installer cette base à l'endroit où ils pensaient être l'endroit le plus éloigné de toutes les côtes de l'Antarctique, donc le pôle sud d'inaccessibilité. Ils ont laissé une toute petite base sur laquelle ils ont construit une grande cheminée. En haut de cette cheminée, ils ont laissé un buste de Lénine, le regard tourné vers Moscou.
Ouais, ouais.
Ce qui est complètement fou.
Ouais,
ouais. Et depuis, cette base, elle s'est fait tout doucement enterrer par le vent, par la neige. Et maintenant, il ne reste plus que le buste de Lénine qui est encore bien là, un petit peu seul. Hein. On l'a trouvé à notre
Lénine. Abandonné d'ailleurs, pourquoi? Parce que les soviétiques après n'avaient plus les moyens ou parce que finalement c'était trop inaccessible?
Vous avez la bonne réponse. C'était à la fois trop compliqué, trop coûteux et trop inaccessible en fait, ce point-là. Nous, on a mis quand même 42 jours à l'atteindre après 2700 km de bataille sur ces sastrugis, ces vagues de glace qui nous ont bien complexifié notre progression bien difficile. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que les soviétiques s'étaient trompés.
C'était pas au bon endroit.
Le pôle sud d'inaccessibilité a été rectifié par les Anglais. Et il se trouve qu'il était un peu plus loin, à environ une centaine de kilomètres. Et donc, on a réussi à l'atteindre aussi avec Heidi, mais c'était pas exactement au bon endroit, les soviétiques.
Pourquoi, vous demande Julie, ne pas avoir utilisé des engins électriques avec panneaux solaires pour tracter les radars, notamment.
Oh là là. Oui, c'est vrai qu'on y aurait pensé, on aurait bien aimé le faire. Mais en fait, ces radars demandent trop d'énergie pour l'instant par rapport à la taille des panneaux solaires qu'on pouvait emmener. Donc on a décidé de faire un bon petit compromis. Les kites fonctionnent ultra bien dans ces régions-là. Et finalement, on a préféré réserver nos petits panneaux solaires juste pour recharger les instruments scientifiques plutôt que nos moyens de déplacement. La technologie n'est pas encore là. Le très grand froid, en fait, est vraiment difficile pour les batteries, même s'il y a quelques tests qui sont faits dans les régions polaires aujourd'hui.
Le très grand froid, notamment, vous vous êtes rendu compte très vite, je ne sais pas d'ailleurs, que vous ne pouviez plus gonfler les matelas. C'est pour ça que vous avez dormi par terre quand même, au bout d'un moment. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, alors, si on y retourne, voilà, on a beau être super préparé, il y a des erreurs qu'on a faites et qu'on ne refera plus derrière. Par exemple, ça existe ça ou pas ?
Il y a toujours des erreurs. Je pense qu'on était quand même bien préparé, mine de rien. Il y a toujours évidemment des problèmes qui arrivent sur le terrain et heureusement, hein, sinon c'est un voyage organisé, c'est plus une aventure. Moi je dis souvent que ce qui compte c'est la manière dont on va réagir, la manière dont on va activer les plans A, les plans B, les plans C. Et une expédition c'est le synonyme d'adaptation. Donc on a eu ces petites déconvenues avec le tapis de sol. Il se trouve qu'on avait un tapis de sol en mousse, donc bon, c'était moins confortable, mais bon, ça nous isolait un petit peu quand même encore du sol. Mais bien sûr, il faut réagir, il faut s'adapter. Donc on a eu des problèmes, mais on a réussi à progresser malgré tout.
Mais il n'y a rien où vous vous dites, la prochaine fois, on ne prend pas ça du tout. Là, il faut vraiment trouver
plein de choses. Là, aujourd'hui, je regardais de la liste justement de l'équipement que j'avais emporté, je prenais des petites notes. Mais ce qui est drôle, c'est que on s'y est habitué à plus avoir de matelas et là, en fait, on dort super mal. On en parlait avec Mathieu, on comparait nos sommeils respectifs de ces derniers jours et en fait, ça me manque un peu la neige et le tapis en mousse.
Moi, je me poserais peut-être une question sur les traîneaux. C'est vrai qu'on en a abîmé, il y avait pas mal d'options.
C'était donc bien le matériau du traîneau ou le matériel du traîneau, non?
Oui, il y a plusieurs modèles qui existent. Nous, on avait deux traîneaux collés l'un à l'autre et c'était intéressant parce que ça évitait qu'ils se retournent. Après, il y avait des modèles uniques, peut-être un peu plus grands, plus volumineux, ça aurait peut-être été une bonne option, mais moi, si je devais vous donner une réponse, peut-être que je changerais le traîneau. En revanche, les kites, les skis, il y a tout très très bien fonctionné.
Comment ça se passe quand les vents sont contraires, demande Laucine sur WhatsApp.
Les vents contraires, c'est presque pire que le pas de vent, parce que le pas de vent, on ne se pose pas de questions, alors que le vent contraire, on se dit, bon, on peut quand même faire un effort. Alors, les voileux qui nous écoutent savent bien comment faire, il faut tirer des bords, donc remonter au vent. Ça fonctionne, sauf que quand on tire un traîneau qui pèse 200 kg, en fait, on est c'est comme si on tractait une enclume, quoi. Et donc on ne peut pas remonter au vent, on n'a pas un angle qui est très efficace. Et au tout début de l'expédition, on avait des vents contraires, ils nous ont empêchés d'avancer pendant plusieurs jours. Et à un moment, on s'est dit, on va quand même essayer. On n'arrivait pas à remonter au vent, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracter les poulkas à notre propre force, une par une, et puis après avec les kites, une par une, mais c'est compliqué. Donc l'itinéraire qu'on a emprunté, les vents dominants sont globalement dans le dos ou de côté, heureusement, on avait évidemment travaillé ça. On n'aurait pas pu faire notre expédition dans le sens inverse, parce qu'en Antarctique, il y a un régime de vent qui était favorable dans la direction qu'on a emprunté.
J'ai une question de journaliste, vous étiez connecté tout le temps, vous étiez sur Insta tout le temps, etc. Ah. Mais est-ce que l'actu vient jusqu'à vous dans ces cas-là, ou est-ce qu'on se dit on va bien laisser ça derrière soi, on verra bien ce qui se passe dans 3 mois quand on reviendra ou pas?
C'est vrai qu'on faisait partie des premières expéditions itinérantes qui avaient vraiment un très bon accès à Internet. Exactement. Alors on ne l'allumait pas tous les jours, heureusement. Et c'est pour le meilleur et pour le pire.
Que vous n'avez pas scrollé pour voir des chatons dans la tente?
Non, alors pour le meilleur, parce qu'on pouvait parler à nos proches. Ouais. Si on avait parfois des soucis très techniques, on pouvait contacter les ingénieurs des radars. Ça, je l'ai beaucoup fait. Mais pour le pire, parce qu'on voyait tout ce qui se passait dans l'actualité internationale.
Ah, quand même, donc, ouais.
Et moi, je travaille pour le Conseil de l'Arctique, quand je ne suis pas en Antarctique. Et malheureusement, ça me faisait beaucoup transpirer de voir ce qui se passait.
Vous êtes entraîné au Groenland, par exemple. J'imagine que vous vous êtes demandé à un moment où vous allez vous entraîner. Avec le drapeau de pique.
Et beaucoup de gens à la fin de l'expé nous ont dit mais restez en Antarctique, vous y êtes bien, ne revenez pas, le monde a beaucoup changé.
Mais d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a une question par mail de Valérie qui dit mais au fait l'Antarctique exactement, il est protégé par quoi, il est géré comment et par qui?
Excellente question. C'est vrai que c'est un statut qui est très différent de l'Arctique, on a vu ce qui se passe au Groenland. L'Arctique, je le rappelle, c'est une copropriété d'État entre la Russie, les États-Unis avec l'Alaska, le Groenland lié au Danemark, etc. L'Antarctique, c'est un continent qui est dédié à la science et à la paix. C'est un continent qui est d'une certaine manière protégé par un traité qui s'appelle le traité sur l'Antarctique et qui dit une chose, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir d'activité militaire et d'activité d'extraction des ressources naturelles du sous-sol. Donc aujourd'hui, c'est un continent où les scientifiques ont accès et il y a une cinquantaine de bases. Nous, les Français, on en a une et on les salue. Une à Dumont-Durville en Terre Adélie et une qui s'appelle Concordia qui est partagée avec les Italiens. Et autrement, il y en a une cinquantaine d'autres et donc c'est un continent qui est dédié à la science et à la paix.
Bonsoir Sylvain.
Oui, bonsoir.
Vous allez être le porte-parole de beaucoup de nos auditeurs et on vous remercie beaucoup. Et je suis sûr que ça fera plaisir à nos deux invités. On vous écoute.
Oui, écoutez, j'ai écouté votre émission avec beaucoup d'intérêt. Puis ce que je voulais dire, c'est que on sent le bonheur dans votre voix. En fait, l'émission a remonté le moral. Parce qu'on sent la joie, le bonheur. Donc, merci de partager ça. Ça fait du bien au moral, surtout en ce moment. Et puis, ça donne surtout envie, non pas d'y aller, parce qu'il ne faut pas qu'on y aille, mais c'est surtout qu'on devrait plus faire des choses pour protéger l'Antarctique. Et merci pour tout ce que vous faites.
Ça fait vraiment plaisir.
Elle est pour vous. Et en même temps, c'est vrai que ça donne envie. Regardez, on a Julien qui dit, mais ça, du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous, à notre niveau, nous demande-t-on ici. Qu'est-ce qu'on dit au grand public? On ne veut pas y aller, nous, évidemment, dans l'Antarctique, mais nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche?
Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Il y a deux choses qui sont vraiment clés. Nous, on a eu la chance de faire tout un programme pédagogique avec l'association Témoins Polaires, parce qu'on sait que l'éducation, c'est la clé pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Après l'éducation au changement climatique, il faut prendre les bonnes décisions. Et là, on en a tous des décisions importantes à prendre dans les prochains mois, parce qu'il y a des élections en France qui arrivent très vite. Et bien, on sait que voter au niveau individuel, ça fait partie des choses les plus impactantes sur nos territoires. Donc, votons pour des personnes qui comprennent qu'aujourd'hui, l'effondrement du vivant, que le changement climatique, c'est notre santé, c'est aussi notre économie, c'est finalement tout ce qui compte pour nous, c'est notre présent et notre avenir. Donc, essayons de prendre les bonnes décisions dans les semaines qui arrivent.
Regardez ce que nous demande personne, son nom est personne, sur WhatsApp, qui dit est-ce qu'on se frite parfois comme ça arrive en bateau. Vous vous êtes frité l'un l'autre ou pas?
C'est sûr qu'il y a une proximité pendant 80 jours, on l'imagine. Hein, avec Heidi, on a partagé quand même une tente minuscule et dans des conditions qui étaient spartiates, on ne va pas se mentir. Être assis sur un fauteuil comme je le suis dans un studio, c'est quelque chose qui ne nous est pas arrivé.
Oui, oui.
On était accroupis à l'intérieur de la tente pendant toute la durée de cette expédition. Donc forcément, les conditions parfois cristallisent peut-être des petites tension, mais on était avec Heidi très alignés sur le projet depuis le début et on savait pourquoi on le faisait et on savait pourquoi on était là.
Pousse-toi, c'est à toi de faire réchauffer l'eau.
Alors Heidi est très matinale.
Prends trop de place.
Mais moins efficace le soir.
J'ai froid.
C'est plus Mathieu.
Est-ce que vous avez écouté des podcasts de Radio France en attendant?
Alors énormément. Alors j'avais le bonheur d'entendre.
Rester.
J'avais le bonheur que Heidi me raconte les livres audio qu'elle écoutait pendant les journées de kite. Et moi j'étais plus podcast.
Okay.
Et j'en ai écouté beaucoup, figurez-vous, notamment de Affaires Sensibles, qui est un de mes podcasts de cœur, et puis beaucoup de vos confrères chez France Culture. Et je ne les citerai pas tous.
On embrasse Fabrice. Je voudrais savoir ce que vous avez fait de Paco le Manchot qui vous a accompagné de bout en bout.
Paco se repose.
Très bien. Il a eu froid. Lui aussi, Paco le Manchot, il n'est pas habitué à être au milieu, vous nous l'avez raconté, c'est bien ça le problème. Je vous remercie chaleureusement tous les deux, vraiment merci beaucoup,
merci
à tous pour vos nombreux appels sur France Inter, il est 20h.